Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Campagna et voici vos manchettes en ce lundi 10 août. L'innovation au service des personnes handicapées. Les déficients intellectuels prisonniers d'emplois peu stimulants selon une championne de ski. En France, 127 associations dénoncent le placement abusif d'une fratrie atteinte d'autisme. Et les Jeux parapanaméricains s'est débuté et nous aurons pour vous quelques résultats. Alors que les Jeux parapanaméricains battent leur plein, Toronto était ce week-end le lieu d'une exposition où étaient présentées les percées technologiques destinées à améliorer la vie des personnes handicapées ou en perte d'autonomie. C'est une industrie en pleine expansion. Naviguer sur Internet avec un simple clignement des yeux est désormais possible grâce à des lunettes reliées à une tablette électronique, un outil utile pour les gens qui ont perdu l'usage de leurs deux bras. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'innovations technologiques qui offrent de plus en plus d'autonomie aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L'entreprise québécoise Betemia mise sur un dermosquelette, un soutien orthopédique qui ressemble à une sorte de marchette des temps modernes. L'appareil, installé directement sur les jambes, augmente la force musculaire. Il pèse environ 5 kg et possède une batterie avec une autonomie d'environ 24 heures. Il est conçu pour des gens qui ont des maladies dégénératives, comme Jean-Maurice Goulet, qui a la difficulté à faire certains gestes du quotidien à cause du Parkinson. Le dermosquelette m'aide à m'asseoir en m'offrant une résistance pour ne pas que je tombe en arrière, et il fait le reste du travail lorsque je me lève. J'ai l'impression d'être 30 ans plus jeune. Selon la firme américaine Markets & Markets, le marché des technologies pour aider les personnes à mobilité réduite connaîtra une croissance de 40 % au cours des 20 prochaines années à cause du vieillissement de la population. Les innovations rendent les inventions encore plus pratiques. Les capteurs sont de plus en plus petits, explique la directrice du marketing de Betemia, Corinna Fisher. Nous sommes donc capables de créer des outils d'aide à la mobilité qui sont moins volumineux. Les applications pour téléphone intelligent peuvent également aider les personnes handicapées à gagner en autonomie. La Torontoise Mayan Ziv, par exemple, a inventé une carte qui indique les lieux accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans la ville Reine. L'application a été créée il y a une semaine et déjà plus de 600 endroits ont été identifiés. Les utilisateurs sont invités à ajouter tout nouveau lieu qui répondent aux critères d'accessibilité. Emballer, laver, placer de la marchandise. Les emplois et les stages offerts aux déficients intellectuels sont peu attrayants, répétitifs et peu stimulants, dénonce la championne de ski sur le circuit des Olympiques spéciaux, Stéphanie Savard. Stéphanie, 20 ans, vit avec une déficience intellectuelle légère. Elle se sent prisonnière des préjugés des employeurs et de la population face à sa condition intellectuelle. Championne de ski alpin sur le circuit des Olympiques spéciaux, elle a récolté 3 médailles dans la catégorie avancée dès sa première expérience au niveau international à Pyongyang. Elle connaît beaucoup de succès et elle se rend malheureusement compte des restrictions qu'on lui impose. Stéphanie fait une formation de préparation au travail dans une école particulière. Elle s'adonne à 3 jours de classe et 6 jours de stage dans un dollarama. « Je suis la plus rapide », dit-elle. Le problème, c'est qu'elle n'a plus de plaisir et qu'elle veut lâcher cette école. « Je n'avance plus et je dois rester là. On n'apprend rien. J'aimerais être au régulier et faire mes propres choix », dit-elle. Ses parents comprennent qu'elle ne sera pas engagée par une entreprise comme si elle était une employée normale. Ils savent que Stéphanie ne peut pas tout accomplir et dont certains de ses rêves. Mais pourquoi ne pas donner la possibilité aux déficients intellectuels de tenter leur chance, d'être aidés? Pour savoir ce que l'on veut faire, il faut avoir la chance d'essayer. Elle serait capable de plus, mais elle n'a pas la chance d'expérimenter, explique sa maman. La réceptivité de l'employeur n'y est pas. Selon le directeur général de l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec, les déficiences intellectuelles sont les oubliés de la société. Ce n'est pas sexy, la déficience intellectuelle pour les gens, on dirait. Pourtant, ils peuvent permettre à une équipe de travail d'aller plus loin, de se souder. Il y a plein d'avantages à avoir dans son équipe une personne qui a une déficience intellectuelle. Pour le moment, peu d'entreprises offrent aux déficients intellectuels la possibilité de travailler. Il pourrait y avoir une banque d'employeurs et une banque d'employés pour faire du matchmaking, soutient le directeur. La meilleure façon de convaincre les employeurs, c'est par l'exemple. Les associations de familles de personnes autistes françaises sont en colère. Dans un communiqué commun, 127 associations dénoncent une décision de justice destructrice pour les enfants en Isère. Le conseil départemental s'apprête à séparer et placer une fratrie de 3 enfants atteints de troubles envahissants du développement. D'après ces associations, dont Autisme France, le juge nie les diagnostics et accuse la mère de provoquer les troubles de ses enfants pour toucher les allocations handicap et attirer l'attention sur elle. Pour les enfants, les conséquences de cette séparation pourraient être très graves. Le Dr Sandrine Saunier, médecin coordonnateur du Centre ressources Autisme Rhône-Alpes, cité dans le communiqué, alerte contre le risque de traumatisme psychique et une aggravation des troubles du développement dans une structure collective et non spécialisée. La famille a fait appel de cette décision et a proposé un placement familial chez les grands-parents. Mais le conseil départemental n'a pas donné suite à cette requête, indiquent les associations. Pour celle-ci, cette situation est liée au dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, dénoncé par Autisme France dans un rapport en juillet dernier, dans lequel elle rappelait que ces dérapages font pourtant l'objet de rapports officiels depuis 15 ans. Malgré ces derniers, les familles ne constatent aucune évolution. De l'aveu même de la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, la France accuse un retard dans la prise en charge de l'autisme. Un retard que l'État paye cher. En effet, fin juillet, la justice l'a condamnée à verser 240 000 euros de dommages et intérêts à 7 familles pour défaut de prise en charge adaptée pour leurs enfants privés de scolarisation. Les paranageurs ont gagné 17 médailles pour le Canada dimanche pour hisser le pays hôte de la quatrième à la deuxième place en tout pour le total de podiums aux Jeux parapanaméricains. Les paranageurs Nicolas Guy Turbide et James Leroux ont chacun été décorés d'or. Devin Gottel et Aurélie Rivard ont remporté l'argent, tandis que Sabrina Duchesne, Valérie Drapeau et Sarah Girard sont montées sur la troisième marche du podium. Samedi, Camille Bérubé a terminé deuxième au 100 mètres d'eau, devenant du même coup vice-championne des Jeux parapanaméricains. Tout ça devant parents et amis qui s'étaient tapés plus de 4 heures de route afin de l'encourager. Gagner une médaille en sol canadien, ça signifie beaucoup. Ça représente les hauts et les bas de ma carrière, a dit Bérubé, qui est montée sur le podium un peu partout à travers le monde. Perfectionniste, l'étudiante en communication à l'Université d'Ottawa semblait tout de même un brin déçue du résultat final. Elle pensait toucher le mur plus vite. « Honnêtement, mon temps était vraiment lent. Je m'attendais à mieux que ça », a-t-elle soutenu. « J'étais prête à faire quelque chose de plus gros que ça. » Bérubé, qui possède de multiples records nationaux, a nagé la distance en 1 minute et 26,96 secondes. Elle se promet d'apporter quelques petits ajustements en vue de ses 2 prochaines sorties. Pour une deuxième journée d'affilée, la formation canadienne de rugby en fauteuil roulant a montré sa domination dans une convaincante victoire de 76-32 sur la Colombie. Après une défaite face à l'Argentine, l'équipe nationale masculine de soccer à 7 a signé sa première victoire des Jeux parapanaméricains. Opposés aux Américains, les joueurs du pays, dont fait partie le Montréalais Vito Poirietti, l'ont emporté 2-1 dans un match chaudement disputé du début à la fin. Après leur médaille en double samedi, les joueurs de boccia québécois Marco Dispaltro, Alison Levine, Éric Bussière et Bruno Garneau ont entamé la ronde préliminaire du tournoi individuel dimanche. Le Canada a maintenant 8 médailles d'or, 11 d'argent et 14 de bronze pour un total de 33 en tout. Le Brésil est en tête avec 68 médailles et le Mexique est troisième avec 42. Alors c'était votre bulletin du handicap sur Canalem, la radio de Visez-Voix.